Le Pascal Paoli. Quand je vous le disais que ces gens-là nous mènent en bateau, les Paoli.
C'est Franck à Grenoble, j'écoute les informations sur ce qui est en train de se passer au large de Bastia. Je suis effaré, je suis vraiment effaré que pour procéder à une privatisation, on fasse intervenir les militaires carrément, voilà. On prend d'assaut un navire, les CGT sont obligés eux-mêmes d'entrer dans la flibus pour se faire entendre et pour faire valoir leurs droits. Et ce gouvernement qui ne recule devant rien, qui est d'une violence et d'un cynisme terrible, voilà, envoie la troupe pour régler le problème. C'est vraiment une façon de négocier très très particulière. Moi je suis vraiment effaré. J'ai rien à voir avec la Corse, j'irai pas en Corse parce que j'ai pas les moyens, mais je suis de tout cœur avec les gars qui défendent leur bistec et qui défendent une certaine idée du service public. Voilà, salut à tous.
Vous allez pouvoir vous gargariser aujourd'hui avec le raisonnement du bateau. Il faut quand même vous dire que c'est la CGT mère qui a fait capoter la SNCM, c'est la CGT mère qui a fait capoter le France, hein, le Charles de Gaulle, toutes les imperfections du Charles de Gaulle dues à sa construction dans un bassin trop petit. Bravo la CGT, allez-y les haineux, gargarisez-vous, au revoir les haineux.
Voilà, je voudrais donner apporter mon soutien aux marins qui sont entre Marseille et la Corse là, et qui se battent pour garder leur boulot contre le raz-de-marée libéral. Voilà, j'ai un texte de Jacques Brel que je voudrais leur dédier. Il y a deux sortes de temps, il y a le temps qui attend, il y a le temps qui espère, il y a deux sortes de gens, il y a les vivants et ceux qui sont en mer. Et je voudrais souhaiter plein de bonnes choses pour ceux qui sont en mer et qui se battent contre la folie libérale. Voilà, salut.
Ce que je voudrais simplement dire, c'est que je porte mon soutien aux grévistes, enfin surtout les marins marseillais, c'est pas des grévistes, c'est des gens qui défendent leur emploi. Pourquoi on déforme toujours ces grévistes? Non, ce sont des hommes qui défendent leur emploi.
Ah ah, mais qu'apprends-je ce matin, que le détournement de navire est passible de 20 ans de prison? C'est-à-dire que détourner, modifier le cap d'un engin flottant, eh bien c'est passible de 20 ans de prison. Eh bien on peut se poser la question quand même de savoir de combien d'années de prison est passible le détournement de fonds publics au profit des petits copains pour enflouer ce joli navire. Et ça, combien ça coûte? Allez, Daniel, sois gentil, passe-nous, pour nos amis et pour Monsieur Mugler, les copains d'abord de Brassens. Tout y est. Allez, ciao.
J'aimerais bien entendre un journaliste parler enfin des vraies raisons qui poussent l'État à vendre la SNCM. Alors, si la SNCM est dans cette situation, c'est à cause de la CGT. Hein, 20 millions de déficit, à votre avis, pourquoi l'État veut vendre une société qui fait 20 millions de déficit? Mais il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Salut.
Je trouve qu'on fait beaucoup de bruit avec ce pauvre policier du GIGN tenant en laisse un marin corse à poil avec un godemichet à l'effigie de Monsieur Villepin dans le derrière. Tout de même.
Oui, bonjour, c'est Claude de Creuse. Ben, je m'interrogeais, comme sûrement beaucoup de gens, sur ces élites syndicales, là, ces espèces de parvenus dans leurs bureaux parisiens. Là. Mais qu'est-ce qu'ils foutent alors qu'on a des mecs avec des couilles de zapatistes qui ont réussi à redresser la tête face au néolibéralisme, au rouleau compresseur du néolibéralisme avec cette prise de bateau, là. Et ils foutent quoi, là, Thibault tous ces vendus, là? Moi, c'est vraiment, là, il y a un truc, là. Il faut, on parlait des élites politiques, mais je crois que tout le monde dans le même bain, là. Il faut que ça vienne d'en bas et que ça pousse fort, là. Enfin, voilà. À bientôt.
Ouais, Daniel et toute l'équipe, là, bonjour, c'est Jean-Baptiste des Yvelines. Juste un mot pour dire, là, je sors du 13h, je viens de voir ça, là, les images des hélicos qui viennent de descendre sur Pascal Paoli, et j'imagine à l'avance les réactions de mes co-auditeurs de la partie j'y suis, là, qui vont dire « Ouais, c'est dégueulasse, on envoie des hélicos et des militaires pour des pauvres père de famille qui essaye de défendre le service public, de défendre leur entreprise, et puis moi, ça me fait vomir. Parce que les infos, là, comme tu l'as déjà dit, en citant je sais plus qui, ben c'est la machine à fabriquer de l'oubli. Et qui c'est, là, qui vient de le shipper, ce bateau? Ben, c'est des marins du STC, d'accord? Et ces gars-là, il y a quelques mois, ils ont fait signer un accord collectif à la direction de la SNCM pour que celle-ci s'engage à embaucher des quotas de natifs de la Corse. Ça veut dire la préférence territoriale, ok? C'est la préférence nationale, mais version Corse, voilà. Aujourd'hui, les mêmes gars, ils expliquent qu'ils ont juste chipé un bateau comme ça pour le rendre au peuple corse, mais juste comme ça, c'est en père de famille. Et personne ne réagit. Mais cette phrase-là, cette façon d'expliquer leur baroud d'honneur, hein, de rendre cet instrument de travail là à la Corse et au peuple corse, mais ça devrait faire tilt dans les têtes des gens. Mais en sachant qu'ils défendent la préférence territoriale, moi ça me fout les boules, parce que ça veut pas rien dire du coup cette phrase, hein, sous cet angle-là. Attention, moi aussi je trouve ça ridicule, les G.I. Joe là, envoyés sur ce bateau. Mais en chipant ce bateau quand même, il y avait une symbolique très lourde lorsqu'ils expliquaient qu'ils voulaient le rendre au peuple corse. Je trouve ça extrêmement dangereux qu'en France on puisse non seulement avoir ce genre de geste, ce genre d'explication du geste, et aucun commentaire journalistique, un tant soit peu doté de mémoire, rapport à ce qu'ils avaient signé, donc comme accord collectif sur la préférence territoriale.
Bonjour les haineux, ça chauffe sur le répondeur de la basse JC au 01 56 40 37 37. Les quantités de messages évidemment sur le raisonnement du navire et les grèves de la SNCM à Marseille. On pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais on a à peu près les différents arguments qui sont arrivés sur notre répondeur. Aujourd'hui on continue à Marseille avec nos trois valeureux pèlerins, Leïla Chaïd, Michel Warchavski et Dominique Vidal, qui depuis pendant deux ans et demi sont allés de Bahut en lycée, de médiathèque en maison de la culture pour parler du conflit du Proche-Orient et de ses répercussions sur notre société française. Là, c'est la façon dont justement cette société française réagit dans les quartiers, en l'occurrence les quartiers de Marseille. C'est le troisième volet de cette série de reportages. Je rappelle, on m'a demandé hier, j'ai rapidement parlé de ce quinzomadaire qui s'appelle le Gris-Gris international, quinzomadaire satirique panafricain. Voilà, c'est un journal qui, on parlait d'un canard enchaîné africain, bon, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, c'en est quand même pas loin, et qui traite des sujets, ben voilà, de toute l'Afrique, l'Afrique du Nord comme l'Afrique noire, mais dans les relations avec la France, et c'est assez gratiné si vous êtes intéressé à, comme nous, à la France-Afrique, au travail de Verschave et d'autres, et bien ce journal en est la prolongation. Sous un angle satirique, on en reparlera. Les repères aussi de la basse J'y suis, ça continue, on reçoit des propositions, on est en contact, et aujourd'hui il y a un repère des amis de là-bas à Saint-Nazaire, c'est à l'appart 182 rue de Pornichet, où les amis de la basse J'y suis s'y retrouveront à 19h aujourd'hui, mercredi 28, et de la même façon à Gémenos, à côté d'Aubagne, le bar de la pipe, et ouais, il s'appelle le bar de la pipe, et c'est aujourd'hui, mais on n'a pas eu l'horaire, si je l'ai d'ici la fin de l'émission, d'ici 18h, je vous le dirai. Donc, départ pour Marseille, pour les quatre quartiers, pour les débats, et auparavant, d'autres messages sur le répondeur 01 56 40 37 37.
Écoute, je peux pas m'empêcher de penser aujourd'hui, 27 septembre, que la menace terroriste à la Sarko, qui tombe comme un cheveu sur la soupe, hein, on n'a pas entendu que ça pétait quelque part, ça me fait penser aux armes de destruction massive de l'Irak à la bouche, hein, et les conséquences qu'on connaît. Allez, salut.
Salut Daniel, c'est Ahmed du 93. Je t'appelle parce que je viens d'entendre un message là, d'une des auditrices qui te remercie de l'émission que tu as fait en fait sur la mission de Warchavski avec Leïla Chaïd. Donc elle a l'air toute gentille cette auditrice, mais j'aimerais juste faire un apport ou corriger un peu ce qu'elle dit, parce qu'il y en a marre d'entendre systématiquement les gens dire c'est bien, ils devraient faire ça plus dans les banlieues. comme si dans les villes, ils y connaissaient quelque chose au problème israélo-palestinien plus que dans les banlieues. Il me semble que c'est un peu le contraire. Et je voulais juste ajouter une chose aussi, parce que ce matin, on a entendu le super Julien Drey sur la radio pour laquelle tu bosses, malheureusement. Et je tiens à dire que tu fais honneur à cette radio malgré le reste qui est pas très honorable. Et je voulais juste redire une parole de Julien Drey qui disait à propos de Tariq Ramadan, que je considère comme quelqu'un de respectable avec lequel on peut avoir un débat. Il disait, moi, Tariq Ramadan, je vous foutrais mon poing dans la gueule. Je n'ai jamais entendu parler de Le Pen de cette façon. En plus, ce matin, on a parlé à la radio en des termes beaucoup plus respectables. Donc voilà, ça me laisse un peu perplexe à leur objectivité. Voilà, merci et continuez ce que vous faites. Salut.
S'il y a un truc qui m'a marqué dans le reportage de ce soir chez Cilicienne, c'est que ça se voit pas qu'elle soit arabe ou juive ou noire ou même manouche parce que c'est de la radio. Par contre, il y a un truc qu'on entend bien, c'est qu'elles ont toutes l'accent de Marseille.
Je suis pas plus antisémite que n'importe quel des Français qui se dit pas antisémite. Ouais, mais moi, il faut que je fasse comme si je suis présumé coupable, alors que les autres sont présumés innocents. Non, j'ai la charge de la preuve, c'est sur celui qui accuse, pas sur celui qui est accusé.
Le fond, voilà. C'est quoi? C'est qu'on a fait de la politique sur les jeunes issus de l'immigration et pas avec eux. Résultat, on s'est planté. Tous les partis, de gauche, de droite, se sont plantés en France. Parce qu'ils voulaient pas, sans doute. Parce qu'ils pouvaient pas, sans doute. Mais aussi et surtout parce que c'est pas les intéressés qui ont dit ce qu'ils voulaient.
Nous ne sommes pas avant tout ni maghrébins, ni africains, ni issus de l'immigration, la phrase qui est presque insultante pour ces jeunes Français. Ils sont avant tout dans des classes sociales moins favorisées que d'autres.
J'en ai marre de cette récupération, je dis ça tranquillement, je suis fils de déporté et comme beaucoup, ma mère était la seule survivante de sa famille. Et je dis au nom de ça, la récupération de ça, vers ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque part une insulte aussi à notre mémoire.
Le débat avec Michel Warchavski, Leïla Chaïd et Dominique Vidal, c'est là-bas si j'y suis. Salut.
Flight number 2, arriving from New York. Oh, 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 oh.
صورت الصور شو رايكم في هالوضع سجن شو بفرق عن السجن ولا ايش صح بصور كمان
ההסתגרות והסגירה זה אבן יסוד של החיים שלנו פה אבן יסוד ההורים שלנו במענית באו משטטלים קטנים ומגטאות בלודג' זה אנשים שכל החיים שלהם זה סגור
Il y a une phrase dans le film qui nous dit, je sais plus c'était qui, quelqu'un de l'État, la ministre, je sais pas quoi, qui dit que les deux côtés, en fait, où sont les Palestiniens et où sont les Israéliens, c'est leur...
Il y a Leïla Chaïd.
Je pense que pour moi, c'est la plus grande star. C'est une grande dame.
Tu veux qu'on aille la saluer, sinon j'ai l'impression que tu vas plus l'écouter jusqu'au bout.
Je l'avais déjà vue, mais là, je suis impressionné.
C'est juste. Leïla ?
Oui,
je vais juste vous présenter... Mounir, parce que j'arrive plus à lui parler depuis que vous êtes dans la pièce.
Bonjour, ça va, vous allez bien?
Je suis heureux de vous connaître.
Merci, c'est très gentil.
Merci.
Vous étiez là l'année dernière. Merci, c'est gentil.
Je tenais à vous le dire.
Merci, c'est très gentil. Vous vous intéressez à la Palestine, vous suivez tout ce qui se passe?
Oui, beaucoup. J'étais là l'année dernière quand vous étiez venu.
Je vous demandais, parce que moi j'ai une mémoire visuelle, je me rappelle de votre visage.
Ça me fait très plaisir.
Je peux vous embrasser?
Parce que...
Vous savez, votre sourire, ça m'encourage à continuer à faire mon travail.
C'est oui, pour la bonne cause.
On continue ensemble, oui, oui. N'inquiétez pas.
J'espère que ça se réglera.
Oui, ça va.
Inch'Allah.
Dans l'histoire, ça finit toujours par se régler lorsque les peuples décident. Il y a un proverbe en arabe qui dit « Lorsque les peuples décident, l'histoire leur répond. » C'est une question de temps. C'est dommage de continuer à laisser les jeunes mourir de part et d'autre. Parce que finalement, vous connaissez-vous un peuple qui a voulu vivre et qu'on a empêché de vivre quelque part dans l'histoire du monde? Et c'est pour ça que c'est dommage que stupidement Sharon ne comprend pas que les Israéliens, les jeunes Israéliens aussi n'ont pas envie de mourir, comme les Palestiniens n'ont pas envie de mourir. Ça se fera. Mais il faut que ça aille vite. Inch'Allah, avec votre soutien.
Merci, Leila.
C'est je crois. Femme peut-être comme ma mère.
Bon, maintenant que tu as eu la bise, tu vas m'écouter un peu?
Il n'y a pas de problème. Moi, je suis français. Hein.
Pourquoi ça te concerne alors ce qui se passe là-bas?
C'est important. On parle d'Israël. Qui a un millier ou un peu plus d'un millier de soldats, de conscrits, de réservistes qui refusent d'aller dans les territoires occupés. En Israël, il y a 6 millions d'habitants, hein, à peu près, plus. C'est-à-dire, c'est comme si chez nous, 10 000 soldats ou réservistes avaient refusé de faire la guerre d'Algérie. Il n'y a jamais eu 10 000 soldats ou réservistes en France qui ont refusé d'aller faire la guerre en Algérie. Pourquoi je dis ça? Parce que après, petit à petit, il y a eu les porteurs de valises, il y a eu ceux qui ont refusé de servir, les déserteurs. Et puis finalement, en 60-61, tout d'un coup, l'opinion française, elle s'est manifestée. Et puis on n'a eu pas le 17 octobre 61, parce que là, on a tué des centaines d'Algériens sans que l'opinion française se dresse. Mais quelques mois plus tard, après Sharon, le 8 février 62, on a eu des centaines de milliers de Français dans la rue pour enterrer les morts de Sharon. Et ça a fait basculer la guerre, et la guerre s'est arrêtée. C'est pour dire simplement qu'on ne peut pas trop, être trop sévère. Il n'y en a pas beaucoup, ils se battent très fort, mais on sait par notre expérience en France que ce n'est pas beaucoup. Ça peut jouer un rôle décisif pour que ça bascule.
Ce que dit Michel tout à l'heure, c'est extraordinaire.
Voilà.
C'est très intéressant.
Dominique Vidal évoque la dissidence israélienne. Et l'auditoire est très attentif. Un auditoire qui a quand même envie de remettre ses certitudes et ses convictions en doute. Vous avez compris, on est sur le sujet qui fâche, le sujet épineux. On a décidé depuis longtemps, vous le savez, dans la basse j'y suis, de ne pas se taire. On a voulu nous faire taire et on a décidé de ne pas se taire. Et ils n'ont pas décidé, eux non plus, de se taire. Leila Shahid, que vous connaissez, porte-parole de la délégation palestinienne, Michel Barshavsky, intellectuel israélien, engagé dans son pays comme chez nous, comme un peu partout dans le monde, et Dominique Vidal du monde diplomatique, qui est historien et un observateur très avisé de la question du conflit du Proche-Orient, comme de ses répercussions ici. Olivia demandait à ce garçon en quoi ça te concerne ce qui se passe là-bas. Eh bien, c'est la question qu'on s'est posée, qu'on a posée. C'est pas tant du conflit dont nous allons parler, on en parle beaucoup, et on n'a pas fini d'en parler, parce que c'est vraiment le point le plus sensible actuellement au monde, qui a des conséquences énormes, des conséquences symboliques considérables, et aussi bien des conséquences géostratégiques, politiques, sociales, etc. Donc, voyons comment ce conflit est vécu en France, quelle est son influence, on l'exagère, on la nie. On va voir comment elle est vécue à travers ceux qui sont venus écouter et débattre avec nos trois pèlerins qui, je faisais l'éloge il y a trois jours, des donneurs de leçons. Et pourquoi ne pas accepter de donner des leçons, et pourquoi pas écouter des leçons, pour peu qu'elles soient le fruit d'expériences longues, de réflexions et d'échanges ainsi menés depuis longtemps. C'est jusqu'à 18h sur Inter. C'est là-bas si j'y suis. Et dis-toi, tu veux me parler une minute, Eva? Dis-toi, qu'est-ce que tu as appris ce matin?
Ben moi, je trouvais que le débat était vachement intéressant parce qu'il était axé sur un conflit qui touche énormément de personnes par le biais de la télé, par les gens qui sont directement impliqués en Palestine. Mais ce que j'en ai retenu, c'est que moi, je travaille dans les quartiers d'Aix-en-Provence. Je suis éducateur spécialisé, donc je travaille à la DAP 13. Mais les jeunes, ils sont pas antisémites. C'est faux et c'est loin de ce qu'on veut donner par le biais des médias, de dire que tous les jeunes des quartiers sont antisémites. Non, ça c'est pas vrai. Ils ont d'autres priorités, ils ont d'autres questionnements qui sont plus d'ordre de leur avenir, sur leur insertion sociale, leur insertion professionnelle. Ça, c'est des questions qui leur touchent et qui leur tiennent à cœur.
Qu'est-ce que vous avez appris ce matin?
D'abord, j'ai appris qu'un certain nombre d'Israéliens pouvaient souhaiter qu'un État palestinien existe et souhaiter la paix. Je suis moins sévère avec les Israéliens aujourd'hui. Grâce à ce monsieur, peut-être que je serai moins sévère avec les Israéliens.
Grâce à monsieur Warshawski, vous êtes moins sévère avec les... Je ne sais pas si c'est ce qu'ils souhaitent.
Si, pourquoi pas. Non, parce qu'on est quand même aussi un peu partisan. Enfin bon, moi je suis partisane.
Partisane de la cause palestinienne.
J'estime que les Palestiniens sont particulièrement floués. Mais au bout d'un moment, on n'est plus du tout objectif. C'est-à-dire qu'on n'est que pour les Palestiniens. À la limite, Israël n'existe plus, quoi. Enfin, et d'entendre parler quelqu'un d'Israël, ce que j'entends rarement, ça me permet de replacer un petit peu les choses.
C'est extraordinaire ce que vous dites. Quelqu'un d'Israël, ce que j'entends rarement, alors qu'on est tous en train de dire, on est surinformés sur ce conflit, on est nuit et jour, on sait ce qui se passe, on connaît mieux les cailloux du Negev que la Corrèze.
Mais on n'écoute même plus. L'armée israélienne a fait une intervention dans la bande de Gaza, il y a eu 10 morts, il y a eu 3 morts. On n'écoute pas. Mais de toute façon, j'ai tendance à ne pas vouloir écouter la cause israélienne. Par principe, quoi. Enfin, c'est forcément eux qui ont tort.
Voilà ce qu'on peut entendre à l'issue de ces débats. Et c'est intéressant parce que quand quelqu'un comme ça dit, on n'écoute même plus, mais oui, c'est vrai, on n'écoute même plus. On s'écoute plus, on n'écoute plus. Les médias, pourtant, c'est vrai, ne cessent de parler de ce conflit. Beaucoup moins de ces répercussions et aussi dans l'autre sens. Comment notre société est travaillée par ces clivages entre le monde juif, on va dire, et ce qu'on appelle le monde arabe. C'est deux termes évidemment impropres à expliquer et à dire la complexité de ces deux mondes, et puis évidemment de mondes qui sont à l'intérieur de la société française, puisque il s'agit de Français juifs ou de Français d'origine arabo-musulmane, etc. Donc c'est très difficile de résumer, de réduire, et il faut des occasions comme ça, des débats où on parle, où on se voit, où on se touche, où on se pour peut-être pas remettre les pendules à l'heure, mais se remettre en question et parler d'une autre façon de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on sent, et sortir de ces putains de clichés dans lesquels on est enfermé.
Je suis Mustapha Mohammadi.
Vous travaillez auprès des jeunes, hein, c'est ça?
Oui, dans le cadre de la réadaptation sociale en direction des jeunes en grande difficulté sur Marseille.
Sur Marseille.
Il y a un malaise dans les quartiers qui est lié avant tout à l'injustice sociale. Les conditions de logement, c'est pas les conditions de travail, l'absence de travail, l'absence de qualification. C'est ça le malaise. Le malaise, c'est surtout cette injustice sociale que vivent, que subissent les habitants des quartiers, les quartiers populaires. Bon, les autres éléments qui s'ajoutent à ça, c'est on s'identifie à d'autres injustices qui sont de par le monde. On s'identifie plus aux héros de la télévision. On peut s'identifier à des Ben Laden, on peut s'identifier à Moulha Omar, on peut s'identifier à des gens qui tiennent tête à ceux qui détiennent justement ce pouvoir économique, militaire sur les gens, parce qu'ils l'exercent sur les gens. À force de dire à quelqu'un, à force de lui renvoyer par le, dans un miroir qu'il est méchant, qu'il est pauvre, qu'il est écrasé et tout ça, qu'il va revendiquer cette pauvreté, qu'il va revendiquer cette dureté qu'il subit, etc. Et les gens dans les cités, s'ils s'identifient à la cause palestinienne, c'est essentiellement, ils s'identifient à l'injustice que subit ce peuple, premièrement. Et la deuxième identification, c'est au niveau de la résistance. Ils veulent résister dans leur cité comme le peuple palestinien résiste dans les camps et dans les territoires où ils sont occupés. Ça se traduit par lancer des pierres sur les intervenants qui représentent les services publics. On résiste aussi par rapport à de se conformer à un fonctionnement. Ça se traduit par des actes d'incivilité, de temps en temps des saccages de biens parce qu'ils pensent qu'ils ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent à des dominants en détruisant du matériel qui peut être collectif, qui peut être leur propre matériel. C'est une forme de résistance du faible qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas résister parce qu'il n'a pas les moyens financiers, il n'a pas les moyens économiques. Le reste, ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est de la manipulation idéologique. Les clichés à l'islamisme, les clichés liés au sexisme, les clichés liés à leur lien avec un je ne sais pas quel mouvement terroriste international, etc. Ça, c'est dans le fantasme de ceux qui veulent donner, qui veulent monter d'abord la tension et surtout les tenants du discours sécuritaire. Parce que plus on injecte la dose de l'insécurité chez les gens, plus on a un avenir devant soi.
Et l'antisémitisme,
c'est une réalité. C'est une réalité. Je suis un sémite, moi. La plupart des jeunes des cités, c'est des sémites. S'ils sont musulmans, c'est qu'ils sont sémites. Ils sont sémites. Alors tout le discours sur l'antisémitisme, c'est une réalité. On le combat de la même manière qu'on combat le racisme. Mais il faut pas aussi exagérer. Il y a un intervenant hier. Là, j'étais pas d'accord avec l'explication de Leïla Shahid. Il y a un jeune qui a constaté qu'il y a eu une hiérarchisation dans la lutte contre le racisme. L'antisémitisme devient une cause mondiale, internationale, humaine, morale, et le racisme vient juste après. Puisque quand il y a un acte antisémite que nous condamnons aussi, toute la classe politique qui se mobilise, toute la classe politique, et quand il y a un acte contre une mosquée ou contre des Arabes à caractère raciste, on le déplore. On a commencé par faire tout un plat par rapport à Tariq Ramadan, et puis on a utilisé Tariq Ramadan comme prétexte pour attaquer, pour développer une islamophobie de plus en plus grandissant, et ça banalise les choses, et j'ai peur qu'il ait des conséquences un peu graves par la suite.
On continue avec ces rencontres, ces propos, ces analyses de ceux qui participent ou interviennent ou non, ou écoutent simplement ces débats et ces conférences sur le conflit du Proche-Orient et ses répercussions en France. Voilà à Aix, Layachi, qui est licencié en droit et qui est venu d'un auditeur particulièrement attentif et qui a son point de vue.
Nous sommes les indigènes de la République, voilà. J'ai vu le texte, je partage pas mal des idées qui sont... Bah, c'est-à-dire que c'est cette manière de stigmatiser l'islam et les musulmans, c'est le nouveau colonialisme. Enfin, peut-être que c'est un mot qui est un peu fort, mais bon, c'est un colonialisme des esprits, quoi. De nous renvoyer toujours là où on est, de donner des définitions à notre place, de nous expliquer par exemple ce que c'est que l'islam, alors que je veux dire, on a nos spécialistes, on a des savants qui sont en France, qui sont français, qui sont nés en France. À l'époque des colonies aussi c'était le cas. Et on avait des pantins qui servaient de, un peu peut-être comme le CFCM, des pantas qui faisaient croire que bon, on avait les places, on dirigeait, mais en fait c'est toujours la même chose, on parle à notre place. Ça arrange tout le monde de nous mettre ça encore sur le dos, comme si on n'avait pas assez de difficultés d'emploi, de chômage, d'éducation. On en rajoute antisémite maintenant. Comme ça, en plus du terrorisme, donc comme ça, comment on va s'en sortir maintenant?
Il y a quand même un on dans ce que tu dis, non?
Oui, oui, parce que forcément, je me sens solidaire. Je me sens solidaire de... parce que c'est moi qu'on accuse. Même si moi, je le sens pas, c'est moi qu'on accuse. Enfin, c'est moi. Quand je dis moi, c'est le, à l'arabe ou le musulman. Ou le... Bon, ça, je me reconnais pas du tout dans cette étiquette. Et là, forcément, quand on m'accuse moi, avec tout le musulman, là, je dois me défendre. Je dois dire non, c'est faux, c'est pas vrai. Je suis pas plus antisémite que n'importe quel des Français qui se dit pas antisémite. Moi, j'ai pas à apporter une démonstration là où quelqu'un d'autre qui est français pur souche, si je peux le dire, lui, il n'aura pas à apporter une démonstration. Mais moi, il faut que je fasse comme si je suis présumé coupable, alors que les autres sont présumés innocents. Non, je veux dire, la charge de la preuve, c'est sur celui qui accuse, pas sur celui qui est accusé. Voilà. Je nie pas mes origines de quartier. Moi, je suis de Clermont-Tonnerre, moi, je suis d'Auvergne. Je suis ici que depuis un an et demi, je vis dans une cité universitaire.
De l'Aix. Et alors je reviens un moment sur le conflit au Proche-Orient. Toi, tu as posé une question sur les réfugiés. Quand tu dis tout le monde est victime de ce conflit, ça va jusqu'où, le rayonnement de ce conflit, tu penses?
Bah, je sais pas si je peux oser dire, nous en France, en tout cas les Arabes ou les musulmans aussi, quelque part. Mais bon, c'est tellement peu par rapport à ce que subissent les Palestiniens de là-bas. Je veux dire, nous aussi, je veux dire, on est cantonnés, on me dit, comme vous disiez tout à l'heure, que le conflit est transposé ici, qu'on l'a déplacé, que... Là encore, c'est une manière...
C'est vrai, non, ou pas?
Non, c'est un droit accusateur. Quand on nous dit ça, c'est on nous accuse. On n'a jamais accusé les, entre parenthèses, les, pas les Israéliens, mais les Juifs de France de transposer le conflit ici. C'est plutôt les musulmans ou les Arabes qu'on accuse. Donc là encore, c'est une manière de les accuser. C'est pas juste un conflit qui se transpose avec deux camps neutres. Non, non, c'est, en mon sens, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Là encore, on peut en être les victimes. Mais bon, personnellement, moi, j'ai jamais rien ressenti. J'ai jamais été victime de quoi que ce soit, ni de racisme, ni d'islamophobie, ni d'autres choses de ce genre. Mais force est de constater que les Arabes en général le sont.
Donc toi, tu es étudiant en ce moment?
Je viens de terminer mes études de droit et d'expertise comptable.
Pour faire quoi plus tard?
Je suis en phase de réflexion. Qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis.
Savoir le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans, la douce France m'adore tellement qu'elle m'interpelle à chaque tournant. J'ai pas le profil d'un président, pour eux j'suis né pour être brigand. Demande à Jacques le fataliste si j'ai le cran d'être aussi grand. Ici le rêve s'est fait trahir par une monnaie qui est pas la mienne. Ici le rêve s'est fait bannir par des pensées industriel, mais ça te plaise. En fait, je m'en fous, on voudrait tant que je joue de la truelle. J'ai fait mon choix et c'est ainsi, je serai un deuxième.
Fais un deuxième.
Un truc cruel. Ouais. Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans? Tu veux que je te dise le quotidien d'un maghrébin quand t'as 20 ans?
C'est mon rêve. Partir des quartiers nord, c'est mon rêve. C'est l'impasse. C'est la ghettoisation, c'est le communautarisme qui est de plus en plus exacerbé. On a l'impression que plus on reste ici, moins on pourra devenir quelque chose. Mais devenir quelqu'un. Pas avoir un petit boulot, non, devenir quelqu'un, avoir un impact, je veux dire, sur la vie sociale, sur la vie citoyenne. On a l'impression que si on reste ici, bah, on peut pas. On va subir, ouais, c'est ça. On a l'impression qu'on va passer une vie à survivre.
C'est quoi ces communautés dans lesquelles tu te sens enfermé?
Ben d'abord la mienne. D'abord la mienne, d'abord ma communauté. La communauté maghrébine, en quelque sorte. Et moi, ce qui me gêne, c'est que dans cette communauté, il y a de plus en plus de jeunes, si vous voulez, qui lâchent la prise. Qui, justement, ont l'impression qu'ils ne peuvent plus y arriver. Avant, ils avaient l'envie d'y arriver. On s'identifie de moins en moins à la société française. On se sent de moins en moins citoyen. Bien sûr, elle déçoit. Bien sûr, elle déçoit. Quand vous envoyez un CV, que
que vous appelez Hassan Genfissi et que le Hassan gêne, et que vous n'êtes pas pris alors que François Jacques, lui, est pris, alors qu'il a peut-être un peu moins de capacité que vous. C'est choquant, hein, ça gêne. Hein. C'est vraiment, on peut pas se sentir français. On a du mal à se sentir français dans des situations comme ça. Pourtant, on vous parle la France, le pays des droits de l'homme. Moi, je suis d'un côté, j'ai beaucoup de respect pour ce pays. Je serais presque un peu chauvin même. Mais vraiment, je serais presque un peu chauvin envers la France, tout ça. Mais quand vous voyez ça, que vous êtes soit noir, soit arabe, soit et que vous avez pas de boulot, vous avez pas quoi. Ah non.
Puis ça doit être vachement dur de s'intégrer, comme on dit, sans renier sa communauté, non?
Ah, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur, c'est extrêmement dur. Vous savez, il y a un mot qui circule là, dans ces communautés comme ça maghrébines dans les quartiers nord. Quand tu restes un peu trop avec des Français, souvent, qui sont pas de ton quartier, on va traiter de harki. Vous comprenez le terme. On va vous traiter de harki directement. Tu as un harka et tout, tu veux faire comme eux, tatachi, tatata. Donc c'est extrêmement dur, c'est extrêmement dur. Faut savoir faire la part des choses, savoir jouer avec les deux, quoi. Et souvent, parmi ces jeunes des quartiers, ben, eux, ils se refusent à toute ouverture. Pour être sûr de ne pas être rejeté par le reste de la communauté, il se refuse à toute ouverture. Lorsque, par exemple, une de ses filles va souvent se marier avec un Français ou sera la première à être rejetée. Alors, faut pas sortir de sa communauté. Faut faire attention, faire très attention. Le Français, ben, dans le quartier nord, c'est le terme, c'est le paillot, c'est la trompette, celui qui a peur de tout, c'est ça, hein, le Français. Français, c'est l'efféminé, donc voilà.
Voilà. Et vous savez pourquoi ça vous étonne, ce que dit Hassan, comme ce qu'il a dit dans les émissions précédentes, ce garçon? Eh ben, c'est parce que on n'écoute jamais dit Hassan. C'est-à-dire que ceux qu'on appelle les jeunes du quartier sont parlés plus qu'ils ne parlent. Hein, c'est Patrick Champagne, le sociologue Patrick Champagne, qui dit ça. Les gens des classes populaires sont parlés plus qu'ils ne parlent. Et c'est effectivement ça qui s'est passé et qui continue de se passer. C'est-à-dire que, eh bien, on en parle, mais eux ne parlent pas. Ces gens-là ne parlent pas. Et c'est l'un des angles du livre de Dominique Vidal sur le mal-être arabe. On en parlera prochainement. Mais là, on a parlé de Tariq Ramadan, alors on a parlé du diable. Dans la basse égyptienne, on a parlé du diable. Voilà ce qu'en pense Dominique Vidal.
Moi, il y a plein de choses où je trouve que ce que dit Ramadan est bien, plein de choses où je trouve pas bien. J'ai des critiques à formuler. Mais en tout cas, rien qui ne justifie ce qui se dit et ce qui se fait aujourd'hui. On a besoin de toutes les forces constructives pour sortir de la merde dans laquelle on est. Et parmi ces forces constructives, parmi d'autres, il y a à mon avis Tariq Ramadan. Et plein d'autres gens, et des musulmans laïcs, et des gens qui ne sont pas musulmans. Je veux dire, c'est un vrai kaléidoscope, les jeunes issus de l'immigration en France, avec des identités très multiples. Le copain là tout à l'heure le disait très bien, je trouve. Mais on voit pas pourquoi il faudrait commencer à faire la chasse aux sorcières avant même d'avoir construit un mouvement, des alliances, etc. On a besoin de toutes les bonnes énergies.
Et comment vous voyez la suite les mois à venir? On va continuer à le marginaliser, il va revenir sur le devant de la scène ou...
Moi, ce que je constate, partout où j'ai été...
Je veux dire, lui, à chaque fois, il était là la semaine dernière à la MMSA chez Obaï. C'est rare de voir des personnes comme ça qui remplissent les salles.
Mais bien sûr, il a de l'influence.
Il est vraiment représentatif.
Mais pourquoi il est représentatif, à mon avis? À part la qualité de la personne, son charisme, comme on dit, et tout. Parce qu'il tient un discours simple. Il dit, un, vous êtes des Français. Deux, vous n'avez pas votre place dans cette société. Il y a des discriminations, ghettoisations, etc. Battez-vous. Trois, respectez les lois de la République. La loi de la République, c'est la nôtre. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit ça, après on peut chipoter, il y a de quoi débattre sur telle ou telle de ses thèses. Moi, les thèses sur les mœurs, sur la vie sexuelle, le rôle de la femme et tout, il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord, je ne suis pas le seul. Mais l'alliance, elle se fait sur la base de critères qui permettent d'agir ensemble. Moi, je trouve que Tariq Ramadan est un de ceux avec lesquels on peut agir ou il faut agir pour essayer d'avancer, comme d'autres, encore une fois. Moi, j'ai été au Val-Fouret, il y a des jeunes qui... De l'éveil, c'est une belle association. J'étais à Lyon, j'ai vu les gens de diversité. J'étais dans d'autres villes. J'étais à Toulouse. Il y a les gars démotivés. Ils ne sont pas sur la ligne du Ramadan, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout ça, c'est des forces dont on a besoin, à mon avis, pour essayer de construire une alliance entre les jeunes des cités et l'ensemble des forces démocratiques, altermondialistes. Pour moi, c'est ça qui compte. Il ne faut pas se sortir préalable.
Je suis un des deux vice-présidents de
de l'Union juive française pour la paix. Donc c'est une association qui a une dizaine d'années d'âge, mais qui s'est vraiment développée depuis 4 ans au moment de la deuxième intifada. Nous sommes une association tout ce qu'il y a de plus laïque. Nous sommes sortis du bois en tant que juifs parce que ce qui se passait en Palestine et ce qui se faisait en notre nom était absolument insupportable. Donc nous sommes clairement pour la fin de l'occupation, pour le démantèlement de toutes les colonies, pour un État palestinien, pour une paix juste sur une base d'égalité. Et en même temps, en France, nous tenons à expliquer que juif sioniste israélien, ça n'a rien à voir. Ce sont des choses totalement différentes. Et que nous, en tant que juifs, nous sommes porteurs de valeurs d'universalité, de valeurs d'égalité. Bon, ce sont les principales raisons de notre engagement. Là,
Voilà, il s'appelle Pierre Stamboul. Il est, comme il vient de dire, vice-président de l'Union des Juifs pour la paix. Et on s'était forcé ces dernières années, surtout depuis la seconde intifada, de faire entendre d'autres voix juives. Il y a une phrase, un proverbe presque qui dit « deux juifs, trois opinions ». Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y en a qu'une en France. Hein. Il y a une parole officielle presque, et puis rien d'autre. Alors que le débat est très riche en Israël, le débat est très riche et très ouvert. Mais en France, tout le monde a peur, tout le monde est inhibé, tout le monde est intimidé ou se laisse intimider, ce qui n'est évidemment pas le cas de cette Union des Juifs pour la paix, qui est un mouvement certainement pas majoritaire, mais qui n'en est pas moins cohérent et intéressant pour autant. C'est quand même intéressant de vous entendre, parce que dès qu'il est question du monde juif en France, il y a une voix qui parle, c'est celle du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives de France, par la voix de son président, dont l'actuel président est M. Koukerman, et puis c'est tout. Alors après, évidemment, il y a des personnalités qui s'expriment personnellement, mais on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule voix. Et est-ce que vous présentez une dissidence ?
Bon, on n'aura jamais la prétention d'être plus nombreuses que nous sommes. Nous sommes quelques centaines, je ne vais pas dire, en France. Mais nous avons certainement une importance plus importante, parce que le CRIF, c'est Dominique Vidal qui parlait tout à l'heure, qui explique que sur les 5, 6, 700 000 Français qui quelque part sont juifs, le CRIF n'en organise à l'extrême maximum que un septième, un huitième. C'est-à-dire qu'en France, il y a énormément de juifs qui sont des citoyens, qui ont une histoire vieille de plusieurs siècles de lutte pour leur émancipation, de lutte pour la laïcité, de lutte pour l'égalité des droits, de lutte pour la citoyenneté, qui ont, à cause de cette histoire, de nombreux engagements dans des mouvements de libération, dans des mouvements égalitaires, dans des mouvements révolutionnaires. Et que quelque part, cette espèce de réduction aujourd'hui à ce que Kuckerman, qui est un propagandiste du Likoud, qui est un propagandiste de la droite, qui est un propagandiste qui pousse littéralement les juifs français à partir en Israël, qui attaque directement, j'ai envie de dire, leur citoyenneté, leur intégration dans la société française, qui voudrait en faire des supplétifs d'une politique qui nous est insupportable, ou des gens qui sont finalement des touristes, qui n'ont pas compris que leur vrai rôle est de partir en Israël. Je dis le CRIF. Contrairement à son nom, il ne représente qu'une minorité de juifs. Nous n'avons pas la prétention d'en représenter une majorité, mais il y a une sensibilité qui est importante, qui existe en France, de gens qui sont laïcs, de gens qui sont pour l'égalité, de gens qui sont contre les racismes, et qui, quelque part, quand ils regardent la situation là-bas, ne l'admettent pas.
Est-ce que vous craignez pas de faire le jeu des antisémites, des adversaires des juifs ?
L'antisémitisme est une chose beaucoup trop sérieuse pour que on la laisse dans n'importe quelle main. Il y a des véritables antisémites en France, principalement liés à l'extrême droite. Il y en a quelques-uns, c'est même vrai, infiltrés dans le mouvement pour la Palestine. Mais ce qui est dramatique, c'est que les antisémites font très volontairement la même confusion que les partisans de Sharon. Ils confondent sciemment juifs, sionistes et israéliens. Edgar Morin a parlé d'anti-israélisme, c'est-à-dire qu'il y a de façon très naturelle aujourd'hui énormément de citoyens qui sont scandalisés par la politique qui est menée là-bas, qui sont scandalisés par l'occupation. Et la stratégie qui est utilisée aujourd'hui de dire systématiquement toute critique d'Israël, toute critique de la politique de Sharon, c'est de l'antisémitisme, c'est une politique d'intimidation. Et vraiment, j'adjure tous les citoyens, de quelles que soient leurs origines, ne vous laissez pas intimider. La guerre qui se passe là-bas, ce n'est pas une guerre religieuse, Leïla Chaïd l'a expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas une guerre civilisationnelle, ce n'est pas une guerre nationaliste. C'est une guerre sur la question de l'égalité des droits et de la justice. C'est une guerre où il y a un occupant et un occupé, et il ne s'agit pas de transposer les choses. Leïla Chaïd, tout à l'heure, j'étais très sensible à son propos, elle a repris ce qu'est la martyrologie juive, parce qu'elle sait que c'est extrêmement important dans ce conflit. Et elle a bien expliqué que on n'a pas construit l'État d'Israël ni en Bavière ni en Pologne. On est allé le construire en Palestine dans un peuple qui n'avait pas le début d'une responsabilité dans le génocide. Donc on ne confonde pas tout. Il y a une stratégie qui consiste à dire critiquer Israël c'est de l'antisémitisme, Arafat égale Hitler, la libération d'Auschwitz, Sharon s'est permis de dire c'est la preuve que les juifs ne peuvent compter que sur eux-mêmes, sous-entendu nous avons raison de mener notre politique de guerre et notre politique d'oppression. Il y en a marre de cette récupération, je dis ça tranquillement, je suis fils de déporté et comme beaucoup, ma mère était la seule survivante de sa famille. Et je dis au nom de ça, la récupération de ça vers ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque part une insulte aussi à notre mémoire.
Quand on partage vos idées, on risque de se faire taxer d'antisémitisme.
Et nous, de juifs honteux.
Et voilà. Et vous, juifs, de juifs honteux, ce qu'on appelle self-hating. Voilà. Et je ne sais pas quel est le plus grave des deux, le plus difficile à affronter des deux. Vous rigolez, mais ce n'est pas si facile que ça à affronter.
C'est vrai que cette histoire de haine de soi, je crois que dans l'histoire de la haine de soi, il y a une question après de discussion sur ce qu'est l'identité. L'identité juive, c'est quelque chose de très complexe. Mais en tout cas, il y a certainement aujourd'hui une volonté de dire il n'y a plus qu'une seule identité, il n'y a plus qu'une seule voie. C'est les juifs ne peuvent vivre qu'entre eux, c'est la théorie sioniste. Donc c'est illusoire de combattre l'antisémitisme, c'est illusoire de vivre au milieu des autres. Le sionisme représente la diaspora comme une espèce de parenthèse. Je pense que quand on dit ça aux juifs qui sont citoyens en France, ils le comprennent parce qu'ils ne veulent pas partir. Ils se sentent bien comme citoyens français. Et je crois qu'il y a tout un travail à faire sur la question de l'identité, parce que le CRIF, par exemple, manipule l'identité juive. Il alimente une névrose de peur pour transformer les gens en complices. Et nous avons une parole de dire non, il faut réfléchir. Il faut dire que ces différentes conceptions du judaïsme, elles existaient il y a deux millénaires. Vidal Naquet explique que le siège de Jérusalem par les troupes romaines, il y a une guerre civile entre juifs, entre ceux qui acceptent la romanité et ceux qui la refusent, ceux qui disent que les juifs peuvent vivre qu'entre nous. Ce conflit-là, il existe 2000 ans après. Et nous sommes quelque part les représentants d'un judaïsme qui refuse la fermeture, qui refuse la névrose, qui refuse de reconstituer le ghetto dont les juifs ont pu sortir librement il y a deux siècles.
Pour revenir à l'antisémitisme quand même, on ne peut pas nier que depuis cette seconde intifada, l'intifada Al-Aqsa, depuis, mettons, janvier 2001, on a vu se multiplier ce qu'on a appelé des actes antisémites. Indéniablement, il y a quelque chose qui s'est passé.
Je ne ferai pas de dénégation. Je suis évidemment, je combats férocement tous les racismes, quels qu'ils soient. Je suis individuellement membre du MRAP, même si je n'ai pas le temps d'y militer. Le racisme est une horreur, quel qu'il soit. Il y a en France des actes racistes. Je ne suis pas sûr, quand on fait des statistiques, que les actes antisémites soient plus nombreux que les autres. Il me semble que des communautés comme les Tziganes ou la population originaire d'Afrique du Nord subissent certainement au quotidien, dans les discriminations, des formes de racisme beaucoup plus importantes. Cela dit, il faut absolument tout combattre. Tous les actes qui sont stupides de caillassage, de synagogues et tout, de cimetières profanés, sont des actes qui doivent être évidemment punis. Cela dit, je le répète, il y a, je vais peut-être dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, mais quand on voit sciemment un gouvernement et un CRIF qui dit « Israéliens, juifs, sionistes, c'est pareil ». Est-ce que quelque part on n'est pas pompier pyromane? Est-ce que quelque part on ne porte pas une responsabilité? quand un jeune qui n'a pas réfléchi se dit bah, « moi, je suis pour la Palestine, donc je vais caillasser une synagogue », je n'excuse rien. Je dis « c'est imbécile, ça doit être puni ». Je dis qu'il y a des pompiers pyromanes. Je dirais plus gravement, il y a 20 ans, quand il y avait la profanation de Carpentras, Copernic ou plus récemment Carpentras, descendre dans la rue avec tous les antiracistes, c'était facile. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y en a qui vont protester contre l'antisémitisme en brandissant le drapeau israélien. C'est-à-dire quelque part en faisant la même assimilation que ceux qui ont profané. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Voilà, c'était Pierre Stamboul de l'Union juive française pour la paix. Ils ont un site sur internet facile à trouver. Merci à tous, merci aux amis du monde diplomatique qui nous avaient reçus dans ces reportages et qui ont organisé ces rencontres. Merci à eux, merci à Leïla Chahine, Dominique Vidal et Michel Warchavski. Des livres à signaler autour de ce sujet, le livre de Pierre Thévanian, Le voile médiatique, qui vient de sortir aux éditions Raison d'agir, de Younes Amrani et Stéphane Beau, Pays de malheur, un jeune des cités écrit à un sociologue, c'est aux éditions La Découverte, et puis le film Mur de Simone Bitton que nous avons évoqué en début de cette émission, et puis le mal-être arabe, le bouquin de Dominique Vidal aux éditions Agone. Pour les repères et repères des amis de la Bastille, j'y suis. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Bastille, j'y suis. Et à Gémenos, au bar de la pipe, et ben ça s'appelle vraiment comme ça. C'est tout à l'heure à 19h que les amis de la Bastille, j'y suis, se retrouveront autour d'un verre. Technique aujourd'hui, Lydvine Caron et Stéphane de Vernet. Réalisation Yann Chouquet, assisté de Raphaël Mouterde. Assistante Pascariello, le répondeur c'est Christophe Imbert qui s'en occupe, et le numéro c'est le 01 56 40 37 37, le mail de l'émission daniel.mermer@radiofrance.com. Réclame.